Bien, bonjour tout le monde. On est le 10 août aujourd'hui. C'était la fête de ma petite sœur défunte, Judith, qui aurait eu 58 ans aujourd'hui. On en parlait. Je fais l'enregistrement présent chez moi parce que ce matin, il y a eu une petite difficulté technique. Et puis, dans le fond, j'ai oublié de peser ce bouton pour enregistrer. Donc, je suis obligé de reprendre l'enregistrement. Donc, comme on dit, le plan de Dieu est parfait. Et puis, on va juste remettre ça au Seigneur avant de partir. Seigneur, on te remercie vraiment pour cette position qu'on vient d'étudier, les positions qu'on a reçues quand on a été sauvés par le sacrifice de ton Fils. On a accepté le sacrifice de ton Fils, Seigneur, et puis on te remercie vraiment pour ces positions fantastiques, incroyables qu'on a reçues. Puis que tu nous as donné librement par la mort de Jésus à la croix. Et puis on voudrait te remercier pour ça, puis vraiment d'écrire ces choses dans nos cœurs. Pour avoir le goût de courir pour toi, Seigneur, puis de marcher dans ce que tu as préparé pour nous. Et puis, on s'apprête, Seigneur, à faire une série sur l'esprit. Et puis, l'esprit, c'est ton domaine. C'est pas notre domaine. Nous, les hommes, on peut pas comprendre ces choses-là. Donc, on te demande de nous les révéler, Seigneur, parce que tu as dit que tu nous donnerais un consolateur. Et puis, l'esprit qui est la troisième personne de la Trinité, et puis... On veut apprendre à travailler, à laisser travailler cet esprit en nous. On veut apprendre à le laisser nous guider dans nos vies, Seigneur. Et puis on te demande vraiment de venir nous dévoiler vraiment tes secrets dans le fonctionnement de l'esprit de l'homme. Pour le nom de ton Fils Jésus compris. Amen. Et puis oui, on vient de voir justement les positions, les 68 positions. Bon, on les a nommées, il y en a 68, mais certains si on cherchera encore, on en trouvera encore, mais... On a fait les majeurs, disons, qu'on a fait, on a quand même une bonne idée de comment c'est grandiose qu'on a reçu par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et puis, cette position, c'est très important de pas oublier ça dans notre marche chrétienne, parce que c'est le fondement, c'est vraiment la base de notre marche chrétienne. C'est que ça dépend pas de ce que nous autres on a fait, ça dépend de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Et par ce sacrifice-là, ces choses-là, on les a reçues. Donc, il n'y a rien qu'on peut faire par nous-mêmes, dans notre nature humaine, qui peut nous... qui entache ça, qui peut entacher ça, ou qui peut défaire ça, parce que ça dépend pas de nous, mais ça dépend de ce que Dieu a fait pour nous. Et puis, ces positions nous ont été données. Et puis, c'est des positions qui sont fantastiques. Vraiment, encore une fois, merci Seigneur, pour vraiment cette glorieuse appel que tu as sur nous. Et puis, on s'apprête à faire une série de prédications sur l'Esprit-Saint. On sait que, on n'a pas entendu parler souvent, on sait qu'on a été baptisé du Saint-Esprit, mais c'est un sujet d'une fois qui est un petit peu tabou, parce qu'on a l'impression d'une fois qu'il y a juste les pasteurs ou il y a juste les enseignants qui connaissent ces choses-là, mais on va voir que c'est pas du tout ce que la Bible dit. C'est que la Bible dit, c'est que chacun de nous qui a cru en Jésus-Christ, on a reçu son Saint-Esprit. Et puis ce Saint-Esprit-là a le mandat de nous révéler toutes choses. Donc, c'est pas vrai qu'une personne ne peut pas être dirigée par l'Esprit. On va voir ça. Il y a des critères quand même. Puis c'est une étude que je m'apprête à faire, que je fais en même temps que je la donne. Et puis, je trouve ça hyper intéressant. Toute l'étude est basée sur le livre « L'homme spirituel » de Lewis Perry Schaeffer. Et puis, la renommée de cet auteur-là n'est plus à faire maintenant. On sait que ce livre-là, quand même, j'ai resté un peu surpris de voir qu'il avait été écrit en 1918. Donc, il y a longtemps que ces choses-là ont été révélées, mais c'est encore caché. C'est encore tabou de parler de l'esprit. Tu peux pas te dire à quelqu'un dans une assemblée où l'esprit me dit, oh là, tu te fais regarder comme quelqu'un qui invoque le diable ou quelqu'un qui est séduit ou éduit. À les entendre parler, l'esprit ne peut pas parler à l'homme. Puis il ne peut pas diriger l'homme. Ben, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit qu'elle va nous enseigner toutes choses. Et puis, qu'elle va nous enseigner la pensée de Jésus-Christ dans les situations. Donc, c'est un petit peu contradictoire. Et puis, moi, je pense que ça vaut la peine de approfondir cette étude un petit peu. Et puis, sans vouloir dire qu'on est rebelle, Sauf qu'on n'est pas rebelle, mais on veut pas non plus être naïf dans nos enseignements, pis on veut pas non plus se laisser dire n'importe quoi. On veut vérifier ce que la Bible dit par rapport à ça. Et puis la puissance du Saint-Esprit, c'est quelque chose de très, très, très grand. L'homme peut rien faire tout seul, mais avec le Saint-Esprit, il peut avoir la profondeur de Dieu, il peut avoir le point de vue en ce qui a trait à Dieu dans les choses. Donc, on va commencer avec cette étude. Et puis, une fois la vie éternelle obtenue gratuitement à travers le sacrifice de Jésus à la croix, la Bible nous enseigne que nous recevons le Saint-Esprit, que nous sommes scellés par lui, qui sera un consolateur pour nous, qui nous enseignera toutes choses. La Bible nous mentionne de marcher selon l'Esprit, qui n'est rien de moins qu'une puissance divine, soit la troisième personne de la Trinité. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nous pouvons expérimenter toute la puissance de Dieu à travers notre marche dans ce monde dans lequel nous sommes ambassadeurs pour Christ. Mais pour être ambassadeur pour Christ, il faut marcher selon l'Esprit. On va découvrir ça. On peut pas être ambassadeur de Christ avec notre chair. Parce que notre chair connaît rien de Dieu. Et puis l'apôtre Paul a divisé la famille humaine en trois catégories. Et puis je trouve ça très intéressant, très bénissant. Et je trouve encore ça très intéressant. Il dit premièrement qu'il y a l'homme naturel, soit l'homme animal, en parenthèse, la Bible dit l'homme animal, l'auteur ici utilise le nom l'homme naturel, qui est irrégénéré ou non changé spirituellement. Ça, c'est l'homme animal. Deuxièmement, il y a l'homme charnel, qui est un petit enfant de Christ, au lait. On dirait qu'il est au lait, celui-là. Il vient d'accepter le Seigneur, et puis il marche encore la manière des hommes. Celui-là, c'est l'homme charnel. Et puis, on a l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui marche selon les révélations de l'Esprit. Ces groupes sont classés par l'apôtre selon leurs aptitudes à comprendre et à recevoir la vérité révélée par le Saint-Esprit. Leur classification sera rendue évidente selon leur attitude vis-à-vis des choses révélées. Donc, il peut y avoir des choses révélées, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont y suivre. Et puis, on va voir le passage sur lequel l'auteur se base pour cette étude. Et puis, c'est 1 Corinthiens 2,9 à 3,4. 1 Corinthiens 2,9 à 3,4. Et puis, on va procéder à la lecture. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Pour moi, mes frères, j'ai perdu ce que j'étais rendu. Bon. La pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ, donc on est rendu à 1 Corinthiens 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Fin de la citation. On voit ici qu'il y a une distinction qui est établie entre les sujets généraux de la connaissance humaine, qui sont reçus par la porte de l'œil, celle du cœur et celle qui représente notre puissance de raisonner, et les autres sujets qui doivent être révélés par le Saint-Esprit. On voit car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, les hommes sont classés selon leur capacité à comprendre et à recevoir les profondeurs de Dieu. Personne ne peut entrer dans ces profondeurs par ses propres capacités. On voit la partie du verset qui dit « Laquelle des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? » De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, il n'y a pas un homme qui peut dire qu'il connaît les choses de Dieu par ses propres capacités. Ça n'a aucun rapport avec sa capacité humaine. Ça peut être un gars super performant, un gars qui a des aptitudes incroyables, extraordinaires en gestion, en toutes sortes d'affaires. Pas rapport. Ici, ça nous dit absolument pas, tu peux absolument pas connaître Dieu par ta capacité humaine. Il faut que les choses de Dieu doivent être révélées par l'Esprit de Dieu. L'homme ne peut pas comprendre rien de plus. L'homme peut entrer par ses propres capacités que dans les choses de ses semblables en vertu de l'Esprit de l'homme qui est en lui. Il ne peut pas dépasser sa sphère à lui. Il peut expérimenter les choses du monde animal, les choses qui sont en dessous de lui, mais certainement pas les sphères supérieures et connaître les choses de Dieu. Par contre, le Saint-Esprit, lui, connaît et peut être uni à l'homme d'une manière à aussi les connaître. La partie du verset qui dit ça, c'est « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Nous, c'est qui? Bonne question. Nous, c'est les gens qui avons reçu le cadeau de la vie éternelle sans exception. L'Esprit connaît les choses de Dieu, habite en nous et nous les révèle. C'est intéressant. Eh bien, le verset 13, ça dit « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Le livre de Dieu, c'est-à-dire la Bible, c'est un livre de paroles que l'homme ne peut comprendre à moins qu'il soit aidé. On voit ça dans le verset 9. « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. » Ça veut dire qu'en dehors du Saint-Esprit, tu peux pas avoir aucune intelligence intellectuelle. Une intelligence spirituelle. C'est intéressant, hein? Donc, la capacité humaine, et on voit ici que la capacité humaine est complètement écartée en ce qui a trait à les choses de Dieu, les choses révélées par l'Esprit. Pas rapport du tout, t'as beau être n'importe qui, pas rapport avec les capacités, mais on va le voir un peu plus tard. On va voir chacune de ces catégories qu'on a vues, là, l'homme naturel, l'homme charnel et l'homme spirituel. On va commencer par l'homme naturel. Dans le verset 14, ça dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Ici, l'apôtre Paul, il porte pas un blâme sur l'homme naturel. Il fait simplement que faire une déclaration concernant ses limitations. On a vu que les révélations venaient de l'Esprit, mais l'homme naturel ne peut donc pas avoir ces révélations puisqu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Bien qu'il soit capable de lire les mots avec sa sagesse humaine, il ne peut pas recevoir leur sens au point de vue spirituel. La révélation est pour lui une folie. On voit ça dans 1 Corinthiens 1, 18 au verset 24. On va lire ça ensemble si vous le voulez bien. Et puis, il y a beaucoup de matériel aujourd'hui, mais quand même, je pense que c'est du matériel que ça vaut la peine d'être regardé, de comprendre vraiment comment est-ce que Dieu a voulu que ça fonctionne. 1 Corinthiens 1, 18 à 24, ça dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit « Je détruirai la sagesse des sages » et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Puis on voit ici que Dieu a vraiment choisi, que ça ne dépend absolument pas de notre capacité humaine. Ça ne dépend pas de notre capacité humaine du tout. La relation et puis les choses divines ne dépendent absolument pas de nos performances. Donc, ce n'est pas vrai que quelqu'un qui est plus intelligent, il connaît plus les choses, il peut connaître plus les choses de Dieu, ou ça par rapport, l'homme, dans sa nature, ne peut connaître Dieu sans les révélations de l'Esprit. Donc, les principes moraux et beaucoup d'enseignements religieux de la Bible sont dans le rayon de l'homme naturel. Il peut prêcher avec éloquence, même avec le plus grand sérieux, ne sachant même pas que les choses profondes de Dieu existent. Et puis ça, j'ai une petite anecdote là-dessus. Je me souviens plus du prédicateur. C'est un prédicateur très connu aux États-Unis. Il avait été pris en flagrant délit d'adultère. Il avait été filmé. En tout cas, ça avait été monté contre lui. Puis lui, là, à la télévision, là, le monde donnait le portefeuille. Puis il y en a qui tombaient à terre, tu sais, pendant qu'ils priaient pour eux autres. Puis tu sais, c'était vraiment. Il y avait beaucoup de charisme, le gars. Le gars avait du charisme, c'était incroyable. Il remplissait des salles, c'était plein à craquer. Il avait beaucoup de popularité. Et puis, il est arrivé à un moment donné où ce que Dieu a permis qu'il arrive ces choses-là. Et puis, il a été mis en prison parce qu'il avait volé de l'argent aussi. Et puis, Billy Graham, quand il a appris cette nouvelle-là, Billy Graham, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand homme de Dieu. il a converti, on dit qu'il a participé à la conversion de 2 millions de personnes. Donc, c'est pas rien, mais quand il a appris cette nouvelle-là, il a été profondément attristé, puis il a pleuré. Et puis, il est allé le voir en prison. Et puis, savez-vous quoi? Le gars était même pas sauvé. Il a accepté Christ en prison avec Billy Graham. Il n'avait même pas accepté Christ encore, puis voyez-vous toute la popularité qu'il avait. Donc, faut faire attention, parce que ça n'a absolument pas rapport avec la capacité humaine. Dans ces contrefaçons de la vérité, Satan, il y a des choses profondes à révéler. Dans Apocalypse 2, 24, ça dit à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Donc, Satan, il y a des choses profondes à révéler et puis il va imiter la contrefaçon. Il va imiter la contrefaçon avec Dieu. Donc, les gens vont invoquer des esprits. Ils vont invoquer toutes sortes d'affaires. Ils vont utiliser toutes sortes de moyens. Puis dans le fond, ils vont invoquer des démons. Ils n'auront pas le principe de la Bible, ça fonctionne pas comme ça. Le principe de la Bible, c'est que on a reçu le Saint-Esprit quand on a accepté Jésus-Christ. Et puis si le nom de Jésus-Christ n'est pas là-dedans, ben je suis désolé, mais la Bible dit ici que c'est une contrefaçon de la vérité par l'ennemi. Et puis ça dit aussi qu'il y a des doctrines de démons qui vont exister. Dans 1 Timothée 4.1, ma fille est là pour m'apprendre, mais là, elle n'est pas là d'habitude, mais normalement, je dis un et titre, tu sais, puis je me trompe tout le temps, mais je m'excuse pour les auditeurs. Mais l'Esprit dit, le verset, je vais le répéter, c'est 1 Timothée 4.1, mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est un peu inquiétant, mais d'un autre côté, dans Jean 10:5, ça dit que ça sera certainement pas reçu par des enfants de Dieu. Ça. Les enfants de Dieu, Jésus, il connaît ses brebis. Puis on va voir ce qu'il dit ici. Elles ne suivront point un étranger. Dans Jean 10:5, je m'excuse, je vais vous donner le verset. Dans Jean 10:5, ça dit elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Intéressant. Hein? Donc, c'est l'Esprit qui va les révéler ça. C'est l'Esprit qui est en la personne qui va lui dire, hey, fuis loin de cette personne-là, ce n'est pas un berger. Et puis, les profondeurs de Satan s'adaptent étrangement bien à l'aveuglement de l'homme naturel. Et c'est pour cette raison que l'homme naturel va les recevoir, parce qu'il est aveuglé. Toutes les sectes modernes en sont le témoignage. L'homme inconverti, aussi éduqué qu'il puisse être dans sa sagesse humaine, est aveugle à l'Évangile. On l'a dit tantôt, aussi intelligent que tu seras, quand même que tu liras cet Évangile-là, tu es aveugle à l'Évangile. On voit ça dans 2 Corinthiens 4, 3 et 4. Ça dit, si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, on voit qu'ils ne peuvent absolument pas comprendre ce qui est écrit là-dedans. Et puis, on va voir que c'est un des ministères du Saint-Esprit aussi de révéler ces choses-là, mais on va voir ça plus loin dans la formation. Mais quelqu'un qui est inconverti, il peut absolument pas voir la gloire qu'il y a dans ces Écritures-là. Il peut pas non plus connaître Dieu. Dans 1 Corinthiens 1:21, ça dit « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il l'appelait à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Et puis, il a fait ça vraiment pour confronter tout le monde. Tiens, je vais utiliser la folie de la prédication même pour eux, vraiment pour les confondre. Et puis, l'homme naturel, avec toute sa sincérité et sa sagesse, ne trouvera jamais que folie dans les choses révélées par l'Esprit. Puis, c'est un peu dommage pour nos étudiants dans les collèges et les universités, parce qu'on leur apprend que Dieu n'existe pas. On leur apprend parce qu'ils sont aveuglés. Donc, il n'y a pas beaucoup d'enseignants universitaires qui sont sauvés. On n'entend pas beaucoup parler, en tout cas. Et puis, c'est dommage de voir ça, que nos jeunes sont vraiment dirigés par des aveugles. Des aveugles dirigés par des conducteurs qui sont aveugles aussi. Donc, c'est un peu triste, mais le plan de Dieu est parfait, comme on disait, puis il nous utilise, nous les croyants, pour arriver à ses fins. La révélation de l'Esprit n'a rien à voir avec notre capacité intellectuelle, je le répète encore, beaucoup de personnes non cultivées possèdent le Saint-Esprit. Et beaucoup de personnes cultivées ne le possèdent pas. Cette capacité vient du Saint-Esprit qui habite dans le cœur. Ça n'a pas rapport avec la capacité humaine. L'homme ne peut connaître les choses de Dieu. Donc, voici ce qui termine un peu pour l'homme charnel, l'homme qui n'a pas été régénéré par l'Esprit, par la nouvelle naissance, en acceptant Jésus-Christ comme sauveur. Il ne peut connaître les choses de l'Évangile, il ne peut connaître les choses révélées par l'Esprit. C'est une folie pour lui. On a tous expérimenté ça, parce qu'on a juste tous parlé à des gens qui n'ont même jamais entendu parler de ça, puis on voit que c'est que pour eux autres, quand tu lui parles de ça, souvent, ça veut absolument rien dire. Mais c'est bon quand même de séparer chacune de ces classes-là, puis bien comprendre pourquoi c'est comme ça. Puis la Bible dit que c'est comme ça. Puis c'est correct que ce soit comme ça aussi, parce que Dieu a voulu que ce soit comme ça. L'autre catégorie qu'on voit que Paul nous parle, c'est l'homme charnel. La capacité de ce chrétien est réduite à cause de leur état charnel. Ils sont incapables de recevoir de la nourriture solide. Il y a deux classifications. Il n'y a pas de classification divine parmi les inconvertis, mais il y a par contre deux classes parmi les sauvés, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme spirituel, on sait que c'est le but à atteindre pour chacun de nous, puis ça dépendra pas de Dieu, ça va dépendre de nous, la vitesse à laquelle on va vouloir vraiment avoir une vie consacrée, et puis avoir une vie qui est dirigée par le Saint-Esprit. Et puis on va voir la partie du verset 1 Corinthiens 3:1 qui dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. » Comme à des enfants en Christ, donc ils viennent dire qu'ils sont sauvés, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi je suis de Paul », et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Et puis l'homme charnel, il cède à l'envie, il est envieux, il cède aux querelles et aux divisions, et il marche comme des hommes. Tandis que de véritables enfants de Dieu ont l'obligation de marcher selon l'Esprit. On voit ça dans le verset Galates 5, 16, ça dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et puis, ça prend de l'humilité. Pour marcher selon l'Esprit, ça prend de l'humilité. Parce qu'il vient en premier, on va voir ça plus loin dans nos études, c'est toujours la chair. Et puis, ça dit qu'on n'accomplira pas les désirs de la chair et on va conserver l'unité de l'esprit. Dans Éphésiens 4, 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le chrétien charnel est sauvé, mais il marche selon le train de ce monde. Éphésiens 2, 2, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. On voit que la chair domine. Dans Romains 7, 14, Paul nous dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que j'ai haï. Fait que Paul venait de se rendre compte de sa nature, qu'il y avait une nature pécheresse, une nature charnelle. Un chrétien charnel n'est pas dans la chair, mais la chair habite en lui. On va voir Romains 8, 5 à Romains 8, 9. Romains 8, 5 à Romains 8, 9. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, on voit ici que l'homme charnel ou le petit enfant en Christ n'est pas capable de supporter les choses profondes de Dieu. Exemple. Un nouveau croyant, s'il parle la dîme, va y parler qu'il faut que, selon la Bible, il faut qu'il donne 10% de son brut à l'Église. Il craint que son 12 puis il tire, c'est pas compliqué. Il n'a aucune capacité encore. C'est un bébé, il vient d'être sauvé, et puis c'est tout à fait normal, c'est un processus. Et puis, par contre, il y a une position beaucoup plus élevée que l'homme naturel, qui est sauvé. Donc, ça se compare même pas. Sauf qu'on voit qu'il y a une progression. On dit de lui qu'il cède à l'envie et aux querelles qui mènent à la division des croyants. L'apôtre parle de jalousie, de dispute qui travaillait à diviser la communion et l'amour des saints. Je trouve ça bien intéressant d'entendre ça, moi, parce que des divisions, je pense que tout le monde, quand tu parles à des gens ou des vieux chrétiens, ils ont tous dit qu'il y a souvent des divisions dans l'Église. Puis on nous dit, l'apôtre Paul il nous dit ici que ce sont des chrétiens charnels qui sont en arrière de tout ça. Mais le péché qui est signalé ici, que Paul nous signale ici, c'est celui du croyant qui suit des conducteurs humains. Et puis ça, vraiment, cette déclaration-là, ça m'a vraiment... Je l'ai mis en gras, tu sais, parce que c'est vraiment... c'est vraiment... Ça m'allume des lumières sur bien des choses. C'est que le croyant, au lieu d'être conduit par l'esprit, il suit un conducteur humain, et puis il est en arrière d'une division. Il vient de supporter une division dans le corps de Christ. Et puis, intéressant de voir ça. Il y avait à Corinthe les polythes, les céphésites, les apollosites, et puis les christites, c'est une façon de parler. Dans 1 Corinthiens 1:12, Paul dit, « Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. » Moi, je suis de Paul, et moi, je suis d'Apollos, et l'autre de Céphas, et moi de Christ. Il ne s'agissait pas dans ce temps-là d'organisations rivales comme aujourd'hui, mais des divisions au sein d'une même église qui était née de jalousie puis de disputes. Mais l'histoire nous montre que de telles organisations aboutissent à des organisations rivales. L'expression du péché, de manque d'amour et de la vie charnelle. C'est le résultat de ça. Les divisions s'évanouiront, et leur scandale cessera quand les croyants s'aimeront ardemment les uns les autres, que l'auteur y allait de cette déclaration. Et puis dans 1 Pierre 1:22, ça dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » On voit ça dans 1 Pierre 1, 22 et 23. Et puis, on achève. On a presque terminé. Et puis, on voit qu'ici, que si on obéit à la vérité, on obéit à l'Esprit qui est en nous, ça va produire un amour fraternel sincère. Et puis, on va s'aimer ardemment les uns les autres. Et puis, on va être régénéré par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et puis ça, ça conduira pas dans des divisions. Ça donnera pas... ça nous lancera pas dans des divisions de guerre, de pupitre, puis d'orgueil. Et puis qui laisse des morts. Ça laisse des morts, ces guerres-là. Ça laisse des cadavres qui flottent au-dessus de la vie chrétienne. Et puis c'est très désolant de voir ça. Mais l'homme étant ce qu'il est, par chance qu'on a le Saint-Esprit, et puis qu'on puisse être guidé par ce Saint-Esprit d'amour que Dieu nous a donné, qui n'est pas rien, qui est la troisième personne de la Trinité, qui est la partie de Dieu, je pense qu'on saisira jamais assez combien important ce cadeau qu'on a reçu, qui est notre consolateur, l'Esprit de Dieu qui est en nous, mais qui va être avec nous éternellement. Le chrétien charnel est aussi caractérisé par une marche qui est la même, sur le même plan que celle de l'homme naturel. On voit ça dans 1 Corinthiens 3:3. Ça dit en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme. Et puis, les objectifs sont centrés dans la même sphère que celui de l'homme naturel. Il va marcher comme son ancienne vie. Il vient d'accepter le Seigneur, mais il est encore au lait, puis il continue de marcher dans son ancienne vie. Puis c'est ceux-là, d'habitude, là, que Paul dit, qui vont être à la source de disputes, qui vont être à la source de division, puis de discussion qui n'en finit plus, de jalousie. 2 Corinthiens, on va terminer avec 2 Corinthiens 10:2-5. 2 Corinthiens 10:2-5. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant dans la chair, selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce que, après, quand on lit ce passage-là, on sait que l'homme, dans sa nature, il veut toujours prendre la gloire et la place de Christ. Il veut toujours se mettre sur un piédestal. Il veut toujours qu'on l'adore, lui, au lieu qu'on l'adore... comment je vous dirais ça? Power trip. Vous savez ce que je veux dire, power trip? Là, la tête y enfle, puis il a la soif de pouvoir. Et le pouvoir, ça rend l'homme à faire des choses incroyables. Et puis, ça dit ici, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, on devrait toujours s'en tenir à ce que la Bible dit. Pas ce que quelqu'un va dire un pupitre ou quelqu'un va dire à côté de toi ou qui dit ça devrait marcher de même. On devrait toujours chercher la solution dans la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu, ça dit que l'Esprit nous enseigne toutes choses. Et puis, mais quand même, qu'avant que l'Esprit rentre dans son ministère, il y a quand même des étapes. Et puis, c'est ces étapes-là qu'on va étudier ensemble. En contraste avec une marche charnelle, on peut lire dans Galates 5:16, je dis donc, marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Voilà ce que la spiritualité est. Marcher selon l'esprit. Et puis, on vient d'ébaucher les deux premières personnalités que Paul mentionne. Nous autres, c'est sûr qu'on veut tous être des hommes ou des femmes spirituelles. Évidemment, on veut être des femmes de Dieu. Puis on veut être mais on va apprendre que c'est possible de marcher par l'esprit. C'est pas vrai que c'est juste l'enseignement doit venir juste d'une personne, d'un homme qui est en arrière d'un pupitre ou d'un homme qui donne d'un cours qui a le statut d'enseignant. C'est pas vrai du tout. Ça dit dans l'Évangile, dans les Évangiles, que l'Esprit nous a été donné et puis qu'elle nous enseignera toutes choses. C'est sûr qu'elle va nous enseigner à travers ce qu'on va entendre. pour entendre la parole de Dieu. Romains 10, 17, c'est dit, la foi devient ce qu'on a, vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, l'Esprit va m'enseigner quand que je vois à travers la parole, quand je vais étudier la parole, mais soit que je peux l'étudier, je peux l'écouter dans, lors d'une prédication, je peux l'écouter lors d'un cours, mais je peux aussi m'ouvrir ma Bible et puis prier pour que l'Esprit m'enseigne et puis que l'Esprit m'enseigne aussi. Tu sais, je peux aussi faire ça à la maison, là. Pas vrai que je peux pas faire ça tout seul. C'est pour ça que la Bible dit. Donc, pas vrai que l'Esprit, elle se révèle juste à un certain type de gens. On a vu ça. Puis, c'est pas vrai que l'homme est capable de sonder les profondeurs de Dieu par ses capacités. On a vu ça aussi, par rapport. Les choses de Dieu sont révélées par l'Esprit de Dieu seulement. Et puis, c'est intéressant de voir que Dieu avait pourvu une solution pour ça, sachant comment est-ce que l'homme était contrôlant avec sa soif de pouvoir. Il avait quand même trouvé une solution, et puis je trouve ça vraiment béni. Et puis ça me fait très plaisir de vous l'enseigner, et puis ça me fait très plaisir de l'étudier aussi, parce que moi je pense que l'Esprit, dans ma vie à moi, si l'Esprit ne serait pas révélé, je ne serais plus là pour vous en parler. Donc, il y a personne qui va venir me faire croire ici que l'Esprit peut pas parler à l'homme, que l'Esprit peut pas révéler des choses à l'homme, que l'Esprit peut pas diriger l'homme. Il y a personne qui va me faire croire ça. Personne. Qui s'appelle comme il voudra. Moi, j'ai vécu des choses où je peux vous garantir que l'Esprit m'a dirigé. Et puis, si ce serait pas l'Esprit m'aurait dirigé, puis si j'aurais pas un témoin pour vous en parler, je vous en parlerai pas. Mais il y avait quelqu'un qui était chez moi quand c'est arrivé. Et puis, qui peut vous témoigner de ça. Donc, oui, il est certainement, l'Esprit peut nous diriger, puis l'Esprit peut nous enseigner toutes choses. Mais, on doit être dans une prédisposition. Et puis ça, c'est pas vrai qu'on peut faire ça n'importe comment. Il faut que l'Esprit, avant d'entrer dans son ministère, il faut que l'Esprit soit dans une situation où il peut commencer son ministère. Et puis on va voir qu'il y a des prédispositions. Et on va étudier ça sérieusement. Puis ça va être bien intéressant de voir quelle est la prédisposition pour que le ministère de l'Esprit commence, puis de quelle façon l'Esprit peut se révéler de plus en plus dans nos vies. Donc, je vous laisse là-dessus, et puis je vous dis à la prochaine. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous enseigner, et puis de vous enseigner ce que l'Esprit me révèle à moi, parce que ça dit qu'il n'y a personne qui peut parler de Jésus si le Saint-Esprit ne l'a pas révélé. Donc, dans l'Évangile. Donc, moi, je ne suis rien du tout, parce que la Bible dit que l'homme, c'est un vase de terre. Mais c'est un moyen que Dieu utilise lorsque l'homme est assez humble pour se laisser enseigner. Et puis, on va voir que c'est un point aussi, là, l'humilité. Et puis, je suis très honoré de pouvoir transmettre ces choses-là que j'étudie présentement. Et puis, je vous dis à la prochaine. Puis, si vous voulez, on va prier, on va remettre ça au Seigneur, puis on va remercier notre Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir pourvu à cette solution. Et puis cette solution incroyable qui est ton Saint-Esprit dans chacun de nous. Et puis, on veut vraiment apprendre comment se laisser diriger par l'Esprit. Puis on te prie pour que tu fasses ça dans nos cœurs, Seigneur, pour vraiment que tu viennes nous donner une révélation, que tu illumines les yeux de nos cœurs, à savoir comment on rentre dans une relation avec l'Esprit, comment est-ce qu'on peut créer une situation où le ministère du Saint-Esprit peut opérer à 100% dans nos vies. On te demande de faire ça dans nos vies pour qu'on puisse glorifier le nom de ton Fils dans tout ce qu'on va faire, Seigneur. Et puis, on te prie dans le nom de ton Fils Jésus qui a tout fait à notre place, qui a fait ce qu'aucun homme aurait pu faire. Amen. Merci beaucoup, tout le monde. Bye bye.